Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 1er juin 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, les titres. Au Cameroun, 24 civils ont été tués par des séparatistes en zone anglophone et une sénatrice libérée. Kigali menace de répondre en cas d'attaque sur son territoire à partir de la République démocratique du Congo. Kinshasa accepte de libérer deux soldats rwandais récemment capturés sur le territoire de la RDC à la demande du président de l'Angola. En Guinée, une cour spéciale anticorruption rejette la demande de remise en liberté de l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori-Fofana et de l'ancien ministre Oye Gilavogui. L'Union européenne est sous pression de l'Union africaine pour sortir les céréales bloquées en Ukraine. Et Washington renforce son aide à l'Ukraine en grande difficulté dans le Donbass. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Dans une région anglophone du Cameroun, 24 civils ont été tués et une soixantaine blessés lors d'une attaque menée par des hommes armés, a déclaré hier un maire local. C'est l'un des bilans les plus sanglants après 5 ans de conflit. John Linden.
Le village de Boni 2, dans la région du sud-ouest, près de la frontière avec le Nigeria, a été attaqué dimanche par les séparatistes, a déclaré Kwale Martin, maire de cette localité. Le bilan est de 24 morts et au moins 62 blessés, a-t-il précisé. L'attaque a été confirmée par un responsable administratif local, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ajoutant que certaines personnes ont fui au Nigeria et d'autres dans la forêt. En 2017, le ressentiment des anglophones se sentant marginalisés s'est radicalisé après une grève des avocats et enseignants anglophones. Dans la foulée, un mouvement séparatiste a déclaré l'indépendance des deux régions. Ils ont pris pour cible des policiers, des soldats, des fonctionnaires et des écoles et ont souvent procédé à des enlèvements. Hier mardi, l'armée a annoncé avoir libéré la sénatrice Elisabeth Régine Mundi, 79 ans, qui avait été enlevée avec son chauffeur le 30 avril à Bamenda. Plusieurs otages ont été libérés selon Cyril Atomfak-Gemo, le porte-parole de l'armée, qui n'a pas fourni le nombre exact de personnes libérées.
Après la suspension des vols de Rwandair en République démocratique du Congo, la convocation de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, les accusations et messages de condamnation d'un soutien du Rwanda au M23, pour ne citer que cela, le Rwanda réagit pour la première fois et de la manière la plus ferme. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a indiqué que ce pays ne restera pas les bras croisés si les provocations de la République démocratique du Congo se poursuivent. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Par la voix du ministre des Affaires étrangères de la Coopération, le docteur Vincent Biruta, le Rwanda a réagi pour la toute première fois de la manière la plus ferme. Le Rwanda a la responsabilité et les capacités de protéger sa population, a martelé le ministre Biruta, avant de préciser que les provocations de la République démocratique du Congo ne resteront pas sans réponse. Si ces actes continuent, nous n'allons pas nous asseoir et assister aux gens qui tirent sur nos populations chaque jour ou viennent kidnapper qui ils veulent. Et comme je l'ai dit au sommet de l'Union africaine à Malabo, nous avons le droit de nous défendre une fois attaqués. Nous avons le droit de défendre notre intégrité territoriale, comme c'est le droit à tous les pays du monde. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a également condamné les messages d'incitation à la haine contre le Rwanda qui, selon lui, continuent de se propager en République démocratique du Congo. Jean Damascène Manishimwe, VOA Afrique, Kigali.
Ajoutons que Kinshasa a accepté de libérer deux soldats rwandais récemment capturés sur le territoire de la RDC, a annoncé le président angolais João Lourenço à la suite d'entretiens hier avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. M. Lorenzo a ensuite eu une conversation par visioconférence avec le président rwandais Paul Kagame. Suite à ces entretiens, M. Kagame et Tshisekedi sont convenus de se rencontrer en face à face dans la capitale angolaise à une date qui sera annoncée, a aussi déclaré Luanda. En Guinée, une cour spéciale anticorruption a décidé mardi de maintenir en détention deux anciens ministres du président guinéen déchu, Alpha Condé, incarcérés pour détournement présumé de fonds publics, a-t-on appris auprès de leurs avocats. Il s'agit d'Ibrahima Kassori Fofana, premier ministre de mai 2018 jusqu'au coup d'État de 2021, et de l'ancien ministre de l'Environnement, Oye Gilavogui. Les partis politiques crient de plus en plus fort à l'instrumentalisation de la justice et de la Cour des répressions des infractions économiques et financières. L'Union africaine lance un appel à l'Union européenne pour éviter le pire face à la menace d'une crise alimentaire. Les Européens accélèrent leurs efforts pour sortir les stocks de céréales bloqués en Ukraine en négociant avec Moscou un accès sécurisé au port d'Odessa. Abdourahmane Dia.
En s'adressant aux chefs d'État européens par visioconférence, le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, avertit que la situation est préoccupante et que le pire est peut-être devant nous. Alors que l'ONU craint un ouragan de famine dans des pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie, le président sénégalais a exhorté les 27 à tout faire pour libérer le stock disponible. Macky Sall s'est aussi alarmé des conséquences des sanctions européennes sur le commerce de céréales. Les Européens disent que les sanctions occidentales contre Moscou ne sont pas responsables des tensions sur les marchés alimentaires. Le premier ministre belge Alexandre De Croo a même accusé hier Moscou de prendre en otage les céréales mondiales. Selon le premier ministre italien Mario Draghi, Vladimir Poutine a déjà indiqué qu'il pourrait ouvrir l'accès à Odessa à condition que les navires ne transportent pas d'armes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont annoncé hier soir l'envoi de systèmes de missiles plus avancés à l'Ukraine sur le point de céder dans l'Est la ville de Severodonetsk, où une usine chimique a été bombardée par les forces russes. Alors que l'Union européenne vient de serrer la vis économique avec un sixième paquet de sanctions à l'égard de Moscou, prévoyant notamment un embargo sur le pétrole russe, Washington avance sur le soutien militaire. Le président américain Joe Biden a écrit mardi dans le New York Times que son pays allait fournir aux Ukrainiens des systèmes de missiles plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clés sur le champ de bataille en Ukraine. Ces équipements font partie d'un nouveau volet plus large d'assistance militaire américaine à l'Ukraine, des 700 millions de dollars au total, dont le détail doit être donné ce mercredi. Dans le nord-est du Brésil, les pluies diluviennes qui ont causé des inondations et des glissements de terrain autour des récifs ont fait au moins 100 morts. Michel Joseph.
Les recherches se poursuivent avec plus de 400 pompiers mobilisés entre récifs et la ville de Jaboatão dos Guararapes. Plusieurs dizaines de personnes ont été ensevelies par des coulées de boue. Plus de 6000 personnes ont perdu leur logement et ont dû être hébergées dans des structures d'accueil. L'état d'urgence a été décrété dans 24 municipalités de la région. Le président Jair Bolsonaro a survolé les zones inondées lundi et le gouvernement a débloqué un crédit d'environ 200 millions de dollars pour venir en aide aux sinistrés. Le chef de l'État a été critiqué pour avoir déclaré que ce sont des choses qui arrivent après une tragédie similaire qui avait fait plus de 230 morts en février à Petrópolis, près de Rio de Janeiro. D'autres inondations meurtrières ont eu lieu à la fin de l'année dernière dans l'État de Bahia, puis en janvier dans les États de São Paulo et Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil.
10 personnes sont mortes et une vingtaine sont portées disparues à la suite de l'arrivée lundi sur les côtes de l'État d'Oaxaca dans le sud du Mexique, de l'ouragan Agatha, rétrogradé mardi en tempête tropicale, a annoncé le gouvernement local. Un précédent bilan faisait état de 3 morts et 8 disparus. La Minute Éco, Nanit Talani.
Les ministères des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique du Congo et de la RCA viennent de lancer à Wesso les travaux de construction du réseau sous-fluvial. Les dépêches de Brazzaville rapportent la construction de 6 sites techniques à Pokola, Kabo et Bumassa côté congolais et Lijombo, Bayanga et Salo côté centrafricain avec 285 km de fibres optiques et la fourniture et l'installation d'un système de télésurveillance. L'Algérie prévoit de fournir progressivement à l'Italie de volumes croissants de gaz à partir de 2022 jusqu'à 9 milliards de mètres cubes de gaz par an via le gazoduc Transmed qui relie les deux pays en transitant par la Tunisie. Ce gazoduc a une capacité non utilisée de quelque 7,8 milliards de mètres cubes en deçà des 9 milliards prévus par le dernier accord algéro-italien. Pour terminer, les envois d'argent en Afrique subsaharienne ont augmenté de 14,1% pour atteindre 49 milliards de dollars en 2021 après une baisse de 8,1% en 2020. En 2022, les transferts d'argent devraient augmenter de 7,1% car les migrants africains enverront probablement plus de fonds à leur pays d'origine qui subissent des hausses des prix des denrées de base, estime la Banque mondiale.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme, Guirman en flamme, le 3000 mètres steeple à Ostrava.
Oui, l'Éthiopien, vice-champion du monde et vice-champion olympique du 3000 mètres steeple, a gagné mardi au meeting d'Ostrava avec un chrono canon, l'un des meilleurs de tous les temps. La Mesha Girma s'est imposée en solitaire en 7 minutes 58 secondes 68, meilleure performance mondiale de la saison. Âgé de seulement 21 ans, il n'est que le 13e athlète de l'histoire à passer sous la barrière symbolique des 8 minutes dans cette course et le premier Éthiopien à la franchir. Parmi les coureurs en activité, seul le champion olympique marocain, Soufiane El Bakali, est déjà allé plus vite, 7 minutes 58 secondes 15 à Monaco en 2018 sur la distance. Sur 200 mètres, la légende américaine Allison Felix a pris la deuxième place en 22 secondes 78, largement devancée par la Nigérienne Aminatou Seini, 22 secondes 21, auteur d'un nouveau record mondial. Sur 800 mètres, l'étoile montante Emmanuel Wanyoni, un Kenyan âgé de seulement 17 ans et champion du monde junior l'été dernier, s'est imposé en 1 minute 44 secondes 15 pour la première course de sa carrière hors de son pays. Enfin, sur 300 mètres haies, la néerlandaise Femke Bol, médaillée de bronze olympique sur 400 mètres haies, a réussi la meilleure performance mondiale de tous les temps, 36 secondes 86.
Football débute ce mercredi des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
Deux journées prévues pour ce mois de juin, la première étalée sur 5 jours, avec de belles affiches, notamment Ghana-Madagascar, Tunisie-Guinée équatoriale, Algérie-Ouganda, la RDC reçoit le Gabon, le Burkina Faso fait face au Cap-Vert ou encore Sénégal-Bénin. Des qualifications que ne disputeront pas le Kenya et le Zimbabwe, qui n'ont pas réussi à annuler leur suspension du 24 février dernier, prononcée par la FIFA en raison de l'ingérence des deux gouvernements.
Le président de la Ligue professionnelle de football espagnole va déposer une plainte contre le PSG.
Javier Tebas dit que la plainte auprès de l'UEFA concernant la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au PSG est déjà rédigée et réaffirme qu'il en déposerait une autre auprès de la justice française. « Nous n'allons pas permettre à un club européen de détruire l'écosystème du football européen », a incité Tebas, rappelant que le PSG a perdu 300 à 400 millions d'euros au cours des 3 dernières saisons. Selon la Direction nationale de contrôle des finances du football français, le Paris Saint-Germain aurait enregistré une perte d'environ 225 millions d'euros lors de la saison 2020-2021, marquée par la pandémie. Cette année, c'est l'équipe qui le dit, pas moi. Il va passer à 600 millions d'euros de masse salariale. Il va terminer la saison avec une perte de 300 millions d'euros, a ajouté Tebas. Il a aussi dénoncé les clubs État, comme le PSG, dont le propriétaire est une filiale du Fonds souverain du Qatar.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sevilla. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, note ce qu'elle a appelé une hausse exponentielle du nombre de civils tués et des violations des droits humains au premier trimestre de cette année. La MINUSMA met en cause l'armée et des militaires étrangers sans donner de précision sur leur identité. Le ministère malien des Affaires étrangères fustige, je cite, « des allégations tendancieuses, non recoupées et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible ». Fin de citation. Abdourahmane Dia a joint à Bamako Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme.
Moi, je relativise tout d'abord. En fait, je ne vois pas à travers ces rapports une mise en cause de l'armée. En réalité, la division des droits de l'homme, représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme au Mali, produit périodiquement des rapports sur la situation des droits de l'homme au Mali. Donc, ce n'est pas un premier rapport, ce n'est pas un premier événement. Et toutes les organisations de défense des droits de l'homme du Mali font la même chose du reste. Maintenant, par rapport à la hausse des cas de violation ou d'abus des droits de l'homme, bon, c'est une réalité. Malgré les efforts réels consentis par l'État à travers l'équipement des forces armées et de sécurité, il est évident aujourd'hui que nous enregistrons régulièrement des cas de violation et d'abus des droits de l'homme.
Qu'est-ce que une association comme la vôtre fait pour essayer de limiter ces violations? Et est-ce qu'il y a des séances de formation ou des discussions avec l'armée, par exemple, pour éviter des victimes innocentes des civils?
Exactement, ça c'est vraiment l'une de nos missions. En réalité, nous sommes l'Institution nationale des droits de l'homme, nous ne sommes pas une association. Donc notre rôle, c'est vraiment de faire des enquêtes et puis des investigations à chaque fois que nous apprenons des violations des droits de l'homme ou des abus des droits de l'homme. Et nous devons jouer le rôle de conseil auprès de l'État et pour amener l'État à rétablir la réalité des faits par rapport aux allégations de violation des droits de l'homme.
Et par contre, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué avec les groupes terroristes, les groupes armés.
Exactement, c'est un peu difficile à ce niveau, mais à travers la communication, à travers les médias, nous sommes convaincus que les groupes armés aussi ont accès vraiment à certains aspects des droits de la guerre, des droits internationaux humanitaires. La preuve, certains font des prisonniers. Ils font des prisonniers, ça veut dire qu'ils ont connaissance d'un certain nombre de règles du droit international humanitaire. Mais au-delà, nous prenons ce qu'on appelle la lutte contre l'impunité. Et nous encourageons l'État à combattre les terroristes et tous les groupes armés, mais dans le strict respect des droits de l'homme. Donc la nuance, c'est à ce niveau.
Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine et les changements de constitution aux fins de confiscation du pouvoir. Lors du sommet de Malabo du week-end dernier, l'Union africaine a certes condamné le retour en force des coups d'état militaires, mais elle a aussi dénoncé les modifications de constitution qui peuvent aboutir à des coups d'état ou des révoltes. L'Union africaine a-t-elle décidé de combattre avec le même engagement les coups d'état militaires et ceux que Mahamat Faki appelle les coups d'état rampants en référence au changement constitutionnel? Comment éviter les crises politiques nées de ces changements? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA et VOA.
L'armée camerounaise affirme avoir libéré une sénatrice et d'autres otages enlevés il y a un mois par des séparatistes présumés. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Nani Talani.
L'armée camerounaise dit avoir réussi à sauver la sénatrice Regina Mundi après 2 jours de combat avec les rebelles qui l'avaient prise en otage. Le porte-parole militaire, Serge Cyril Atongfak, affirme dans un communiqué que les affrontements ont eu lieu dans le district de Batibo, dans la région du Nord-Ouest. Moumabi Yvonne, du Mouvement des femmes pour la paix.
J'espère qu'elle est en bonne santé. Pour ceux qui ont pris Mundi et l'ont gardée aussi longtemps, je prie pour que vous changiez d'état d'esprit. Vous perpétuez la douleur et la souffrance des gens. Je félicite ceux qui ont réussi à la faire libérer.
I congratulate those who succeeded in getting her and others out.
Un porte-parole des séparatistes a confirmé que les troupes gouvernementales ont libéré Regina Mundi et d'autres otages, mais nie l'affirmation de l'armée selon laquelle des combattants ont été tués et capturés. Capo Daniel est chef adjoint de la défense des forces dites de défense de l'Ambazonie.
Hundreds of Cameroon military brutalize our civilian population.
Des centaines de militaires camerounais ont brutalisé notre population civile, les ont rassemblés et leur ont lié les mains derrière le dos. Des femmes ont été torturées, des maisons ont été fouillées, des occupants ont été ligotés et forcés de s'asseoir sur les places de la ville où ils n'étaient pas autorisés à avoir accès à la communication. Aucun de nos soldats n'a été tué ou capturé.
Aucune des affirmations de Capo Daniel n'a pu être confirmée de manière indépendante. Un habitant qui n'a pas voulu être identifié par crainte de représailles a confié à VOA que les deux parties ont commis des abus et détenu des civils pendant ces affrontements. Pour sa part, l'armée nie tout abus. Esther Njomo Omam est directrice exécutive de Reach Out Cameroun, un groupe appelant à un cessez-le-feu.
Partie au conflit, c'est le moment de parler davantage entre nous et de résoudre nos différends de manière pacifique.
Des troubles dans les régions occidentales anglophones du Cameroun ont éclaté en 2016 après que des enseignants et des avocats ont protesté contre la domination du français dans le pays officiellement bilingue. Selon l'ONU, les affrontements entre les deux parties ont déjà fait plus de 3 300 morts et quelques 750 000 déplacés.
En République démocratique du Congo, Kinshasa convoque l'ambassadeur du Rwanda pour lui faire part de sa désapprobation après avoir accusé son voisin de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du pays. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir aussi que la RDC reste ouverte au dialogue. Eddy Sango a joint à Bruxelles Emery Kalwira, dirigeant de la coalition des Congolais pour la transition.
On ne peut rien attendre de cette convocation de l'ambassadeur Karega par les autorités de Kinshasa. Il est vrai que toutes les guerres, gagnées ou perdues, terminent toujours par les négociations et les accords. Nous assistons à une guerre d'agression et d'usure la plus longue et la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les coûts du pillage de cette guerre en ressources naturelles se calculent par milliards en dollars, alors que la population congolaise elle-même croupit dans une misère. Plus de 12 millions de morts, plus de 20 millions de Congolais ont fui leur pays à cause de ces conflits. Et nous pensons que s'il faut négocier aujourd'hui, il faut que soit posé le vrai problème. Et nous pensons que les narratifs souvent utilisés par le Rwanda et l'Ouganda pour intervenir militairement sur le territoire congolais a montré ses limites. Parce que les autorités congolaises ont très récemment autorisé aux autorités rwandaises d'intervenir militairement sur le sol congolais et d'endiguer ce qu'ils appellent FDLR. Tous les leaders des FDLR ont été neutralisés par l'armée rwandaise, autorisé par le régime de M. Tshisekedi, au mépris d'ailleurs du droit international humanitaire de protection des réfugiés politiques. Donc nous pensons que s'il faut une nouvelle négociation, ça doit être une négociation qui mette fin à la souffrance des populations congolaises.
Et comment voyez-vous le fait que, en même temps que le Congo, Kinshasa prend des décisions, comme par exemple suspendre le vol de Rwandair et d'autres décisions, et en même temps parle des négociations.
Non, il y a des accords secrets et des accords officiels qui ont été signés entre le régime de M. Kagame et celui de M. Félix Tshisekedi, soi-disant pour essayer de pacifier cette partie du pays, l'est du Congo, mais nous constatons que ça se solde par un échec puisque ces accords n'ont pas encouragé M. Kagame à aller vers la paix.
L'actuel président de l'Union africaine, Macky Sall, le Sénégalais, a parlé, a discuté avec le président congolais, Félix Tshisekedi, mais aussi avec Paul Kagame, et a recommandé que les conflits soient maintenant traités au niveau de la sous-région avec le président de la CIRGL, le président angolais, João Lourenço. Que peut-on attendre de ces discussions?
Mais si le conflit s'exporte vers les pays voisins pour trouver la solution, cela voudrait dire que nous devons aller dans la voie demandée par l'ensemble des Congolais, y compris le prix Nobel de la paix congolais, Denis Mukwege, c'est-à-dire exhumer le rapport Mapping. Et ce rapport Mapping, vous le savez, implique beaucoup de responsables militaires, aussi bien rwandais que régionaux, et des militaires, des officiers de haut rang qui opèrent jusqu'à présent dans le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Puisque si c'est une médiation, je vous informe qu'il y a eu plus de 80 rounds de négociations depuis une dizaine d'années. Il faut que M. Kagame négocie avec son opposition.
Emery Kalouera, dirigeant de la coalition des Congolais pour la transition.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Togo, le gouvernement a lancé une campagne de reboisement ambitionnant de planter 23 millions d'arbres cette année pour augmenter le taux de couverture végétale qui se situe aujourd'hui à 24%. L'objectif est d'atteindre une couverture forestière de 25% en 2025 et de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. De Lomé, un reportage de notre correspondant Kossi Wousso.
À la journée de l'arbre instituée depuis 1977, où chaque Togolais est prié de planter au moins un arbre pour lutter contre l'avancée du désert, le gouvernement lui a substitué depuis 2021 les campagnes annuelles de reboisement avec pour objectif de planter 1 milliard d'arbres en 2030. Mais après la première expérience, le compte n'y est pas. Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières.
Pour la campagne 2021, nous avons noté une forte mobilisation de la population. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que cette mobilisation que nous avons constatée le premier s'est estompée au fur et à mesure qu'on avançait. Nous pouvons vous dire que sur toute l'étendue du territoire, nous avons enregistré 3 333 arbres qui ont été mis en terre uniquement pour la campagne 2021. Et cette année, nous nous sommes dit qu'on pourra aller jusqu'à 23 millions.
Pour atteindre cet objectif, 133 000 hectares de terre ont été mobilisés. Nimon Pacha, le président de l'association des reboiseurs privés du Togo, estime que lui et ses camarades ont un rôle important à jouer pour que le pays retrouve son couvert forestier.
Le ministère de l'Environnement a fait une étude qui a prouvé que le reboisement effectué jusqu'à ce moment est à 60 millions d'hectares. Or, dans les 60 millions, il y a 40 millions d'hectares qui sont peut-être pas les planteurs privés que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes tous là. Tout le monde est concerné. Aujourd'hui, la gestion durable des forêts n'est pas une affaire d'une seule personne.
La campagne de reboisement est aussi une aubaine pour les femmes qui s'organisent de leur côté pour bien de raisons propres à elles. Brigitte Akakpo Adra de Women Environmental Program.
Nous sommes très engagés au niveau de nos organisations dans les régions et au niveau des préfectures, dans cette noble mission de reboiser 1 milliard de plants d'ici 2030. Les femmes ont opté pour l'agroforesterie parce que ces dernières sont très préoccupées par la dégradation des terres agricoles.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde Michel Joseph et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.